La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de la Compagnie des auteurs, un épisode spécial dans lequel nous allons nous employer, tâche ô combien sensible, à déshabiller au sens propre comme au figuré quelques personnages de romans. Nous le faisons avec l'écrivain et universitaire Éric Marty. Un numéro spécial thématique donc, car ce qui est beau avec la littérature, c'est aussi le réseau que forment entre elles les œuvres, la manière dont les mêmes sujets sont sublimés avec d'infinies variations par tous ces écrivains qui s'en saisissent et qui n'ont cessé depuis au fond que l'on raconte des histoires, de décrire les mêmes obsessions qui sont celles des êtres humains. Parmi elles, il y a la fascination et l'effroi que provoque la nudité, et c'est l'un des thèmes qui intéresse Éric Marty. Il a accepté de choisir plusieurs textes sur ce thème, de les lire et de les commenter pour nous. Éric Marty, qui a consacré sa vie à la littérature, que ce soit comme universitaire spécialiste de Sade, de Gide ou de Jean Genet, ou bien de l'autre côté en tant qu'écrivain, son dernier roman paru en 2015 s'appelle La fille. Avant cela, il y avait eu Le cœur de la jeune chinoise en 2013 et Sacrifice en 1992. Tout cela aux éditions du Seuil. Bienvenue à tous, voici La Compagnie des auteurs. Bonjour Éric Marty.
Bonjour.
Alors merci beaucoup d'avoir bien voulu choisir pour nous des textes sur ce thème de la nudité. C'est un thème qui vous intrigue visiblement depuis un moment. En tout le cas, c'est ce qu'on pourrait penser en regardant la liste des écrivains sur lesquels vous avez travaillé. Gide, Genet, Sade, quand on sait aussi que dans vos romans, on parle du corps, on parle de circoncision, on parle du corps de garçons qui sont efféminés. D'où vient, avant d'entrer vraiment dans les textes que vous avez choisis, cet intérêt pour ce thème en particulier, et comment est-ce que vous l'envisagez à la fois dans votre travail d'écrivain et aussi dans le rapport avec les auteurs que vous étudiez?
Peut-être d'abord dans mon travail d'écrivain. Alors, c'est le trouble en fait que suscite la nudité et la représentation de la nudité qu'on vit en fait quotidiennement à cette manière parfois banale. Enfin, dans le quotidien, la nudité, c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais dès lors qu'on veut la représenter dans l'écriture, alors ça prend peut-être une dimension un peu tout autre. Et ce qui me frappe, en tout cas ce qui m'a frappé moi-même quand j'écrivais ces scènes-là, c'est que la nudité introduit un trouble dans l'espace de la perception. Au fond, quand on regarde les choses, on est entre celui qui voit et ce qu'il regarde, c'est le même monde. Mais quand on regarde quelque chose qui est nu, à ce moment-là, il y a peut-être une sorte de dissociation entre le regardé et le regardant, entre ce qui est regardé et celui qui regarde, qui ne sont pas forcément dans le même espace. Celui qui regarde quelqu'un qui est nu, le voit dans un autre monde que le sien. Et lui-même, peut-être celui qui regarde, il se place dans l'espace qui n'est pas celui, justement, l'espace de la réalité. Il se dissocie de ce qu'il voit. Et c'est peut-être ça qui est une forme d'épreuve d'écriture et qui me trouble, qui m'intéresse.
Donc vous mettez l'un en face de l'autre, le regardant habillé et le regardé nu.
Alors, le regardant est souvent et quasiment toujours habillé. On va le voir avec les exemples d'écrivains qu'on va examiner. Mais, par exemple, dans La fille, c'est une scène de striptease dans un petit village du nord de la France, un village assez pauvre, où il y a une troupe de villageois qui va regarder donc la fille, qui est en fait un jeune garçon qui fait l'objet d'une fascination, d'une sorte d'excitation collective, qui va regarder ce striptease et qui forcément va être dans ce mouvement de dissociation, d'opposition, de retrait entre l'obscurité de la salle et la lumière où apparaît le corps, entre justement la masculinité des spectateurs et puis cette androgynie de l'être qui est vu. Et enfin bref, tout cela crée un trouble dans le regard, un trouble dans la perception qui pour l'écriture est une belle épreuve. Une belle épreuve parce qu'on doit justement jouer entre ces différents espaces du visible, et le visible est comme divisé par le nu. C'est en ça que le nu est une épreuve qui est particulière.
Mais il y a une volonté pour ce garçon de se déshabiller. Il y a une volonté de se mettre à nu devant les personnes qui le regardent.
Oui, alors il est aussi un peu contraint. Il est dans une position d'être objet de désir, objet de curiosité. On veut savoir ce qu'il est sexuellement. On veut puisqu'il est lui-même.
Donc on veut le déshabiller pour le comprendre.
On veut le déshabiller pour l'identifier, pour le percer, pour voir ce qui est au fond, au centre de son corps et qui n'apparaît jamais.
Et lui, pourquoi veut-il qu'on le mette à jour
alors lui, il est plutôt la proie que volontaire dans cette histoire. Il est plutôt, en quelque sorte, traqué, un peu comme un animal, comme quelqu'un qui est un peu à part de ce petit monde très triste et disgracié de ce village. Il est un peu à part de tout ça, il est un peu une sorte d'éros, en quelque sorte, perdu dans un monde très pauvre, et une sorte de trésor, d'être un peu brillant, une sorte de petit dieu, comme ça, qui est donc objet de fascination. D'ailleurs, cette dimension de divinité, de la nudité, c'est aussi un thème qu'on retrouvera peut-être dans les textes. Celui qui peut être nu, finalement, c'est peut-être un être qui est divin, ou qui a en lui une part de divinité qui lui permet, qui l'autorise à se dévoiler sans ni scandale, ni sang, surtout ni ridicule, ni honte. Il a cette espèce de grâce qui appartient au Dieu.
Mais ça, c'est la nudité de l'être qui est beau.
Voilà.
Est-ce que c'est différent peut-être de quelqu'un qui se trouve ou qui est moins
voilà.
beau?
Voilà. Alors ça, c'est une expérience qui est de la laideur, alors qui apparaît en effet dans des formes de parodie de la nudité, où la nudité apparaît sous une forme d'un burlesque ou d'une dégradation, d'un avilissement. Mais alors là, Eros n'est pas là. Eros est absent, les dieux sont absents, c'est la misère et l'abjection qui apparaît. Et ça, ce n'est pas en fait une expérience qui me touche beaucoup, enfin, même si dans certains, on peut trouver ça dans certaines poésies, dans la poésie justement qui est des contre-blasons, qui parodie justement la nudité, mais c'est quelque chose qui est vraiment très particulier.
Alors, en tant qu'écrivain, quand vous écrivez cette scène de nu, est-ce que vous pensez à d'autres scènes de nu, peut-être parmi les textes que vous allez nous lire? Et est-ce que c'est difficile, au fond, pour l'écrivain, de décrire comme ça le corps nu?
Peut-être, parce qu'au fond, il n'y a pas vraiment de modèle, justement. Il n'y a pas vraiment de modèle en peinture ou dans la poésie, justement, il y a des sortes de codes qui apparaissent. Et ça va être pour ça justement qu'il y a tellement de scènes de nu en peinture, puis dans les héritages de la peinture, en photographie ou dans le cinéma, parce qu'au fond il y a un code très très préétabli. Un tableau de nu, c'est au fond, ce n'est que la répétition d'autres tableaux qui précèdent. Il y a une sorte de gestalt, de forme préétablie du nu, que le peintre, même s'il est très inventif, recopie, reproduit. Il y a le nu couché, le nu debout, le nu, la jeune femme au bain, la jeune femme sur son lit. Il y a toutes sortes de stéréotypes, au fond, qui facilitent la nudité en peinture. Et on retrouve ça même en poésie. Les blasons, si on pense à Ronsard, à Marot ou à d'autres, il y a aussi, le blason est aussi une forme très codifiée de la représentation de la nudité. Et justement, la littérature, le roman, la fiction, qui entend échapper ou tenter d'échapper au code, n'a pas cette facilité d'avoir des modèles, des schémas, des schèmes en quelque sorte préétablis du nu, d'où en effet le moment d'écriture, d'où le sentiment que lorsqu'on écrit cette scène-là, on fait une sorte de morceau de bravoure, en tout cas de moment intense, où on va en fait tenter d'inventer quelque chose de neuf, et d'où la rareté, et c'est aussi un des constats que j'ai pu faire en préparant cette émission, d'où la rareté de vraies scènes de nu dans la littérature. Je parle de fiction, puisqu'en poésie, on le sait, c'est au contraire très abondant. Mais si on fait le compte, on s'aperçoit que il y a très peu de scènes de nu, au sens où un personnage contemple un autre nu dans une position quelconque. C'est très rare.
C'est un peu contre-intuitif, parce que quand même, on se dit que c'est un sujet tellement évident pour la littérature. Comment expliquez-vous que si la peinture a vraiment, depuis très longtemps, pris ce sujet et l'a comme vous le dites, codifiée. Comment expliquez-vous que la littérature n'ait pas, selon vous, réussi finalement à s'emparer du thème de la nudité aussi bien?
Alors, je crois qu'il y a d'abord qu'en peinture, il y a une forme de légitimité. Le nu appartient à l'art du peintre. C'est une chose établie par héritage, au fond. C'est l'héritage de la sculpture grecque ou romaine. Et donc, cette légitimité fait que la question ne se pose pas. Le nu est un élément imposé au peintre. Il doit faire du nu, quel qu'il soit, que ce soit le peintre le plus médiocre, le plus génial. Il doit passer...
Parce que les peintres aussi apprennent à peindre en regardant des modèles nus.
Tout à fait. Alors, moins maintenant, évidemment, mais en tout cas, pendant des siècles, ça a été le cas. Il y a une évidence de la nudité qui s'impose comme non seulement légitime, mais comme contrainte pour accéder à l'art. Et cette question-là est absolument absente de la littérature. Il n'y a pas, d'une part, il n'y a pas cette contrainte, mais en plus, il n'y a pas de légitimité, et d'où le côté choquant qu'a pu avoir par moment des scènes nues si elles avaient lieu dans la littérature. Parce qu'autant la convention du nu est acceptée comme convention, la peinture académique a produit de manière industrielle des milliers de tableaux de nus sans aucun problème. Ce n'est pas des questions de censure, au fond, parce que le nu était accepté en peinture, c'est des questions de code. Il y avait des codes qui autorisaient ou pas, précisément, à représenter ou non la nudité, et la peinture a bénéficié de ce code-là, la littérature non, d'où, au fond, des formes d'impasse. Et si on regarde les écrivains, je pense à Proust, hein, on a les robes d'Albertine, mais on n'a pas Albertine nue, et quand le narrateur la regarde, l'observe endormie, qui est généralement justement une scène où l'on peut voir l'autre nu parce qu'il dort, eh bien, le corps d'Albertine n'est absolument pas présent, il est absent. Et je me suis amusé à lire, que je n'avais pas lu, le livre de Jean-Philippe Toussaint, qui s'appelle « Nu », précisément. Eh bien, il n'y a pas de nu dans « Nu ». Il y a un mannequin qui, au début du roman, apparaît avec une robe de miel, d'où le fait que la nudité, en effet, est présente, mais de manière purement métaphorique, et pas du tout de manière réelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas justement l'élément de par où l'écrivain va faire l'épreuve de du trouble du regard, justement, que représente la nudité. Il y a un autre exemple qui me vient, c'est l'exemple de Kundera. Un exemple qui est justement un contre-exemple pour moi de ce qui nous... Enfin, j'aime beaucoup Kundera par ailleurs, mais il me semble que là, il échoue justement par rapport à la nudité. C'est un exemple sur lequel je suis tombé par hasard dans un livre qui s'appelle Une rencontre, un roman, où il raconte leur rencontre avec une jeune fille. Il était en Tchécoslovaquie dans les années 70. Il est traqué, il y a des interrogatoires, et la jeune fille a eu très peur pendant ces interrogatoires. Ils se retrouvent tous les deux dans une pièce. Et voilà comment il va faire apparaître une forme de nudité qui, pour moi, est le contre-exemple, justement, de ce que je désire, moi, justement, dans ce type de scène. Voilà, il dit, c'était une toute jeune fille qui ne connaissait encore guère le monde. L'interrogatoire l'avait troublée et la peur depuis 3 jours n'arrêtait pas de remuer ses entrailles. Elle était très pâle et sortait sans cesse pendant notre entretien pour aller aux toilettes. Si bien que toute notre rencontre fut accompagnée par le bruit de l'eau qui remplissait le réservoir. Je la connaissais depuis longtemps. Elle était intelligente, pleine d'esprit. Elle savait parfaitement maîtriser ses émotions, était toujours habillée si impeccablement que sa robe, tout comme son comportement, ne permettait pas d'entrevoir la moindre parcelle de sa nudité. Et voilà que tout d'un coup, la peur, tel un grand couteau, l'avait ouverte, etc. Donc pour Kundera, au fond, la nudité, c'est les entrailles. Accéder à la femme nue, c'est accéder à ses entrailles et ses viscères que la peur et tout ce qui s'ensuit va produire. Il me semble que là, il y a quelque chose qui est raté, parce que précisément, le nu, c'est la surface, c'est la splendeur, et que Kundera, lui, ne fait pas cette épreuve-là, il veut tout de suite rentrer dans le corps.
C'était la compagnie des auteurs sur France Culture et nous sommes avec l'écrivain et universitaire Éric Marty qui lit et commande pour nous aujourd'hui une sélection de textes sur le thème de la nudité. Alors, premier texte après celui de Kundera, que vous citiez comme ça au passage, que vous avez choisi, Éric Marty. C'est un extrait de « Si le grain ne meurt » d'André Gide. On s'y attendait de la part d'un gidien comme vous, « Si le grain ne meurt » paru en 1920. C'est un récit autobiographique qui raconte les premières années de Gide, son enfance et jusqu'à son mariage avec Madeleine, et dont la seconde partie est axée sur la découverte de son homosexualité lors d'un voyage en Algérie. Pourquoi avez-vous choisi ce texte-là? Est-ce qu'immédiatement vous avez pensé à Gide quand vous avez pensé à la nudité?
Oui, j'y ai pensé parce que c'est une lecture de pas d'enfance, pour exagérer, mais en tout cas de très grande jeunesse. J'ai lu ce grain de meurtre quand j'avais, je sais pas, 11-12 ans, à la suite d'une dictée que j'avais eue au collège.
On vous faisait dicter si le grain de meurtre?
Oui, pas le passage qu'on va regarder, qu'on va voir. Pas le début qui est beaucoup plus sage. Mais donc, ça m'a beaucoup fasciné et j'avais donc lu après l'intégralité du texte et j'avais été en effet très troublé par cette scène-là où justement quelque chose comme une espèce de lecture s'opère. Et effectivement, je crois que la scène de nudité dans le roman c'est pas seulement pour l'écrivain que c'est une épreuve où il doit affronter précisément ce trouble de la perception que l'on a dite, mais c'est aussi une épreuve, je pense, pour le lecteur. Le lecteur, quand il arrive à ce type de scène, s'arrête, ou en tout cas a une émotion particulière.
De gêne
Ça peut être de gêne. Ça peut être de gêne, je pense, dans certains cas. On va peut-être le voir avec Madame Eduarda de Bataille, où là, il y a en effet quelque chose qui relève de la gêne, qui peut relever de la gêne en tout cas, ou au contraire, du trouble, de la fascination. Alors ici, c'est en fait une scène un peu décevante, parce que on fait la lire tout de suite. Hein, c'est donc Gide a une vingtaine d'années, il vient d'avoir une sorte d'attaque de tuberculose, il est donc très, 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 très faible, très, très malade comme ça. Et il est à Sousse, en fait, en Tunisie, à ce moment-là. Il rencontre un jeune Ali qui va l'emmener en dehors de la ville. Et ils vont se trouver dans le désert, dans une sorte d'espace désertique, en tout cas. Et voilà donc le passage. Le jeune Ali s'est allongé dans le sable. Et Gide ne bouge pas, ne fait rien. Et le jeune garçon, déçu de la passivité de Gide.
Alors qu'il lui fait des avances très claires.
Il fait des avances très claires. Alors adieu, dit-il. Mais, saisissant la main qu'il me tendait, je le fis rouler à terre. Son rire aussitôt reparut. Il ne s'impatienta pas longtemps au nœud compliqué des lacets qui lui tenaient lieu de ceinture. Sortant de sa poche un petit poignard, il en trancha d'un coup l'embrouillement. Le vêtement tomba, il rejeta au loin sa veste et se dressa nu comme un dieu. Un instant, il tendit vers le ciel ses bras grêles, puis en riant, se laissa tomber contre moi. Voilà, c'est très bref, c'est une scène très très brève, justement, très belle, que je trouve très belle. Ce qui est très beau, évidemment, c'est le contraste qu'il y a entre l'espèce de précipitation, d'excitation à déchirer les nœuds de la ceinture, et puis, au contraire, le mouvement de l'image où le jeune homme se dresse nu comme un dieu. Alors, c'est là qu'on retrouve le dieu, justement, dont je parlais tout à l'heure.
Il y a toujours un peu le dieu, voilà. L'Apollon en l'occurrence.
Apollon, voilà. Ou héros, et Apollon, héros. Alors, c'est Apollon, évidemment, il y a aussi Apollon. Il y a un côté très grec, c'est l'Arabie, le monde arabe que Gide dévoile, c'est un monde qui est aussi très grec, qui est informé par la Grèce. Et il y a quelque chose, donc, d'une sorte de très grande justesse. Mais ce qui me frappe, justement, c'est qu'il n'y a pas de description de la nudité. C'est que, au fond, pour Gide, une image suffit. C'est l'image du jeune homme dressé nu comme un dieu. Ça suffit. Il n'y a pas d'exploration du corps. En quelque sorte, le corps est tout de suite fétichisé sous la forme verticale d'un corps dressé, presque phallique, hein, quelque chose qui, en tout cas, a une dimension de gloire ou d'épiphanie, corps glorieux, corps dressé. Et Gide se contente, finalement, d'une seule image et non pas d'un déploiement du corps. Le regard est fixé sur le corps dressé et ne le parcourt pas, comme si au fond le fétichisme du corps faisait disparaître le corps, comme si au fond d'ailleurs c'est vrai aussi bien pour Sade et pour Genet, puisque vous parliez de Sade et de Genet, les gens sont souvent très souvent nus évidemment chez Sade, mais il y a très peu, pas de description de corps dénudé chez Sade, parce que il y a un tel culte du phallus qu'au fond, le corps disparaît. On pourrait même dire qu'au fond, peut-être, et c'est vrai chez Genet aussi, où là en plus, il y a des vêtements, puisqu'il y a des figures comme divines, où le travestissement, évidemment, dissimule le corps masculin sous une forme travestie, comme si au fond, peut-être, il y avait dans cette espèce de culte du phallus quelque chose comme une angoisse du corps, comme une angoisse de ne pas voir le corps, et comme si, au fond, se faisait écran entre le corps et celui qui le regarde, la figure phallique, hein, qui donc fait qu'il n'y a pas réellement de corps dénudé dans aussi bien chez Gide, chez Sade que chez Genet.
Donc en fait, ce que vous dites, Éric Marty, c'est que le corps, et on va le voir dans la plupart des textes que vous avez sélectionnés, n'est jamais décrit en tant que tel, mais est-ce que ce n'est pas tout simplement parce que la littérature est plus forte quand elle suggère que quand elle décrit ?
Alors oui. Tout à fait. Évidemment, elle est beaucoup plus forte quand elle suggère, quand elle écrit, mais elle suggère. Alors que de chez Sade ou chez Genet, et même on le voit même chez Gide, il n'y a même pas le processus de suggestion. Il y a justement tout de suite la captation de l'image par autre chose que le corps, qui est donc le désir, et qui est donc le phallus dans le cadre de Genet, de Sade, et de Gide.
Donc il n'y a pas de nudité sans la notion de désir, c'est ça?
Oui, voilà. Alors que le désir, oui, soit, mais si vous voulez, ce désir est tout de suite impératif et tellement impératif, tellement, je dirais, fantasmatique, qu'il substitue le phallus au corps et qu'il ne laisse pas le corps se déployer dans, justement, sa vénusté ou son apollinité, sa dimension, justement, divine, et qui lui substitue quelque chose qu'on pourrait appeler le fétiche, qui prend la place justement du corps.
Mais on pourrait imaginer des récits d'hôpital, par exemple, où on pourrait décrire des corps malades, où là on décrirait un corps qui ne serait pas forcément lié au désir. Est-ce que dans la littérature, ça, on ne peut pas le trouver ?
On doit le trouver, mais à ce moment-là, la nudité n'est pas du tout mise en scène, parce qu'elle serait choquante, elle serait triviale, elle poserait problème. Et donc, effectivement, dans ces cas-là, le corps et la nudité, en tout cas, est délaissée, est éclipsée.
Dernière chose sur ce texte de Gide, c'est le seul dans votre sélection qui met en scène non pas le regard d'un homme sur une femme, mais là en l'occurrence le regard d'un homme sur un jeune homme, et on trouve peu dans la littérature de femmes qui regardent des hommes nus. Et la nudité de l'homme décrite à travers les yeux de la femme, est-ce que ça existe ça un petit peu ?
Ça doit exister, mais je n'ai pas pensé à en trouver et à en chercher. Je pense évidemment à Colette ou à des choses comme ça, mais je dois dire que je n'y ai pas pensé. Alors justement, dans le cas de mon roman La Fille, là c'est un jeu où l'objet du regard est double. C'est à la fois un garçon et une fille, et donc se joue encore autre chose dans cette exploration de la nudité. Mais dans le champ, je crois que la femme n'a pas le même rapport, précisément. Enfin, si on prend le risque ici d'essentialiser la femme, en tout cas, la femme n'a pas forcément le même rapport au regard et au corps nu que peut l'avoir l'homme, peut-être.
C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous allons au 19e siècle avec vous, Éric Marty, pour parler de la nudité chez un monstre sacré. On n'attendrait pas forcément son nom, d'ailleurs, immédiatement pour ce thème-là. Il s'agit de Victor Hugo. Vous avez eu tout de suite l'idée d'aller chercher chez Victor Hugo pour
le
thème de la nudité.
Parce que c'est une scène que j'aime beaucoup. C'est dans L'homme qui rit, qui est un roman sur le visible, puisque le héros, c'est Gwynplaine, qui est un monstre qui est défiguré.
Alors, on peut dire que on lui a fait ce qu'on appellerait aujourd'hui le sourire du skin, c'est-à-dire qu'on lui a ouvert la bouche jusqu'aux oreilles, et donc il est balafré des deux côtés.
Il rit lamentablement, et il est en fait, il est dans une sorte de troupe de bohémiens, de comédiens, mais en réalité, il est le fils d'un lord, et il va se retrouver dans une situation de paradoxe, d'être un monstre, et donc un exclu et en même temps précisément un homme qui devient qui va appartenir à la gentry, à la société. Et puis en plus, il y a comme fiancée une jeune fille qui s'appelle Déa, qui est aveugle. Et donc toute la question du regard est vraiment au centre de ce roman. Et la scène de Nenu qui apparaît, que je vais lire très vite maintenant, est une scène très belle, magnifique. Donc Gwynplaine a été enlevé parce que justement on sait qu'il est fils de Lord. Il est dans un château, une sorte de château immense. Il va parcourir un chemin très très compliqué, un dédale baroque, féerique, avec des pièces qui se succèdent, avec des trompe-l'œil. Et puis, au terme de laquelle, il va arriver dans une sorte de salle de bain, elle aussi très étrange. Et puis, il va apparaître une sorte de voile d'argent qu'il va ouvrir, qu'il va soulever. Et là, il va voir Josiane, qui est la sœur de la reine Anne, qui elle-même est fascinée par Gwynplaine, qu'il a déjà vu dans un spectacle, qui lui a écrit une lettre d'amour.
Et d'ailleurs, c'est très rare pour Gwynplaine de recevoir une lettre d'amour, étant donné qu'il est défiguré.
Absolument.
Donc ça ajoute finalement à la scène que vous allez nous lire.
Oui, c'est fascinant.
Eric,
c'est
Martin.
Fascinant parce que justement, c'est une sorte de monstre, elle aussi, mais un monstre moral. Elle ressemble, fait penser un peu à Juliette de Sade, une sorte de femme excessive qui aime la monstruosité, très perverse. Et donc, sauf que là, elle est endormie. Elle est endormie sur un lit. C'est une scène évidemment très très stéréotypée au sens où le lit est l'espace de la nudité. Et Gwynplaine va donc la voir, la regarder. Et je vais lire tout de suite donc le passage en sautant quelques morceaux pour voir être plus rapide. C'est une toile de très transparente d'argent. Cette toile d'une ténuité féerique était transparente. On voyait au travers. Au centre de la toile, à l'endroit où est d'ordinaire l'araignée, Gwynplaine aperçut une chose formidable, une femme nue. Nue à la lettre? Non. Cette femme était vêtue, et vêtue de la tête aux pieds. Le vêtement était une chemise très longue, comme les robes d'anges dans les tableaux de sainteté, mais si fine qu'elle semblait mouillée. De là, un à peu près de femme nue, plus traître et plus périlleux que la nudité franche. La toile d'argent, diaphane comme une vitre, était un rideau. Elle n'était fixée que du haut et pouvait se soulever. Elle séparait la salle de marbre, qui était une salle de bain, d'une chambre qui était une chambre à coucher. Cette chambre, très petite, était une espèce de grotte de miroir. Partout des glaces de Venise, contiguës, ajustées polyédriquement, reliées par des baguettes dorées, réfléchissaient le lit qui était au centre. Sur ce lit, d'argent comme la toilette et le canapé, était couchée la femme. Elle dormait. Elle dormait, la tête renversée, un de ses pieds refoulant sa couverture comme la succube au-dessus de laquelle le rêve bat des ailes. Son oreiller de guipure était tombé à terre sur le tapis. Entre sa nudité et le regard, il y avait deux obstacles, sa chemise et le rideau de gaze d'argent. Deux transparences. La chambre, plutôt alcôve que chambre, était éclairée avec une sorte de retenue par le reflet de la salle de bain. La femme, peut-être, n'avait pas de pudeur, mais la lumière en avait. Le lit n'avait ni colonne, ni dais, ni ciel, de sorte que la femme, quand elle ouvrait les yeux, pouvait se voir mille fois nue dans les miroirs au-dessus de sa tête. Du reste, cette mode du sommeil nu venait d'Italie, et remontait aux Romains. « Sub clara nuda lucerna » dit Horace. Gwynplaine ne percevait aucun de ces détails. La femme, voilà ce qu'il voyait. Il était à la fois pétrifié et bouleversé, ce qui s'exclut, mais ce qui existe. Cette femme, il la reconnaissait. Elle avait les yeux fermés et le visage tourné vers lui, c'était la duchesse. Il la revoyait terrible. La femme nue, c'est la femme armée. Il ne respirait plus. Il se sentait soulevé comme dans un nimbe et poussé. Il regardait. Cette femme devant lui, était-ce possible? Au théâtre Duchesse? Ici, Néréide, Naïade, Fée? Toujours apparition. Il essaya de fuir et sentit que cela ne se pouvait pas. Ses regards étaient devenus deux chaînes et l'attachaient à cette vision. Voilà, je ne dis pas tout, mais on retrouve évidemment un peu tout ce qu'on a vu, notamment la divinité qui apparaît là, mais très forte. Mais moi, ce qui me frappe d'emblée, c'est le début. C'est-à-dire, c'est le paradoxe. Elle est nue, en fait, habillée. Ça commence comme ça. Ça commence par cette idée que, au fond, c'est un renversement. La femme est nue, mais elle est vêtue de la tête aux pieds. Donc, c'est vraiment... Et en même temps, elle reste nue. C'est ça qui est fascinant et qui est trop troublant. C'est que ça change rien. Bien qu'il y ait ce vêtement, cette transparence, cette double transparence entre le rideau et la chemise, eh bien, Gwynplaine voit le nu, voit la nudité, comme si, au fond, peut-être, la nudité était un dispositif toujours très, très complexe, qu'au fond, il n'y avait jamais de nudité absolue, que ça supposait toujours un système de regard compliqué et jamais, au fond, direct. Dans un excès de lumière et dans un excès d'ombre. Comme si, au fond, effectivement, il fallait que notre regard ne puisse pas atteindre complètement le corps dénudé. Comme s'il fallait qu'il y ait des obstacles. Et là, ces obstacles sont là. Mais en même temps, il y a un don de soi, il y a une sorte d'épiphanie, une sorte de présence par où le corps se manifeste intégralement.
Alors, il y a cette phrase un peu étrange, la femme nue, c'est la femme armée. Comment vous voyez cette phrase-là?
Bon, là, on est vraiment dans le mythe complet, dans le mythe romantique de la nudité. C'est le grand thème aussi qu'on trouve dans l'opéra de Wagner, Siegfried, où Siegfried découvre Brunehilde avec son armure. Et elle va être dénudée et il va avoir peur. Il va avoir peur de la nudité. Siegfried, qui n'a pas peur
de l'armure.
L'armure a peur de la nudité en revanche. Donc la nudité, c'est en effet une armure, c'est une sorte de puissance qui déstabilise l'homme, celui qui regarde, pas forcément celui qui va faire l'amour avec la femme, mais qui la regarde. Le regard est comme fragilisé peut-être. Et c'est là où le regard serait une sorte de sens très particulier, très vulnérable au fond, et où l'homme est désarmé par son propre regard, parce que le regard l'amène à, au fond, au-delà de lui-même, et le pose en position de fragilité.
Donc on est un peu à l'inverse de la scène de votre roman, voilà. Où ce jeune garçon habillé en fille, est au contraire totalement désarmé.
Totalement désarmé, mais au fond, oui, tout à fait. C'est une scène inverse, parce que justement, moi, je suis pas un romantique. Mon roman n'est pas un roman romantique. C'est un roman qui est une forme de réalisme cruel, poétique, mais cruel. Alors que Hugo est complètement dans le mythe romantique, justement, de la dépossession dans le regard.
On écrivait encore des scènes comme ça aujourd'hui? Vous avez en tête des écrivains qui décriraient la nudité comme Victor Hugo?
Je pense que le roman se répète beaucoup, et quand on lit les romans d'aujourd'hui, ils sont très souvent faits sur des modèles assez conventionnels. Oui, je crois. L'autre chose qui me frappe vraiment dans cette scène, c'est la présence des miroirs.
Et alors, on retrouvera chez Madame Edouarda aussi.
Chez Madame Edouarda, et qu'on va chez Nana, dans Nana de Zola. Et alors là, c'est vraiment très important. Et alors, je pense bien évidemment à la thèse de Freud, selon laquelle il y a deux libidos. Il y a la libido d'objet, qui est la libido masculine, où l'homme regarde la femme et surestime la valeur esthétique de ce qu'il regarde. C'est la libido d'objet, donc sa libido surinvestit la beauté et l'exagère, la surestime. Et puis, il y a la libido du moi, qui selon Freud est celle de la femme, qui se regarde elle. Qu'est le narcissisme. La femme, précisément, est dans une sorte de narcissisme de beauté, et on pourrait dire que l'un est la libido de l'autre, c'est-à-dire que comme elle a des miroirs au-dessus d'elle, et qu'elle se regarde sans cesse nue, cette Josiane, au fond, eh bien, c'est la libido pour pouvoir la regarder soi. Au fond, le narcissisme féminin, qui serait justement la libido féminine par excellence, et qui fait que le corps de l'homme n'intéresse pas forcément, qui fait que elle-même n'a pas forcément intérêt à regarder l'homme, mais en revanche, elle a tout le plaisir à se regarder elle, eh bien ce narcissisme féminin serait au fond l'alibi qui justifierait que l'homme lui aussi ait le droit de le regarder, y compris quand elle ne le sait pas. Et donc il y a là comme une forme de... Je trouve que la thèse de Freud est très intéressante parce qu'elle est complètement avalisée par ce texte de Hugo. Josiane se voit mille fois dans les miroirs qui sont au-dessus d'elle.
Donc les miroirs, c'est pas pour les hommes, c'est pour les femmes. Voilà. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer.
Le miroir, c'est pour les femmes, c'est-à-dire, et ça sera vrai pour Dana, d'ailleurs, elle se regarde dans le miroir, qu'au fond, si la libido féminine est intégralement narcissique, comme le prétend Freud, eh bien, à ce moment-là, l'homme a le droit, justement, d'être voyeur, puisque, précisément, son voyeurisme serait complémentaire du narcissisme féminin.
C'est la compagnie d'auteurs que vous écoutez. Nous explorons la nudité de quelques personnages de romans avec Éric Marty. Et voilà que sur ce tapis tout à fait approprié à la discussion d'aujourd'hui se dévêtit Nana. Nana qui vient, rappelons-le, dans la série des Gorougons Macquart, qui vient d'une descendance très modeste puisque c'est la fille de Coupeau. Nous parlons évidemment de la série de Émile Zola.
Absolument, c'est la
Coupeau
fille
et Gervaise de l'Assommoir.
L'Assommoir, absolument. Et mais c'est un fruit vénéneux et magnifique en même temps.
Est-ce qu'on peut déjà dire un mot peut-être du livre en lui-même, Nana ? Et ouais. C'est peut-être au fond le livre de Zola qui est le plus charnel. Ouais. Est-ce qu'il y avait un projet aussi qui fait que cette scène que vous allez nous lire est peut-être un des sommets du livre ? Est-ce qu'il y avait un projet de parler justement du corps, de parler de la nudité en parlant de la prostitution ?
Oui, alors c'est vraiment le sommet du livre parce que cette scène est préparée depuis de longues dates. Au fond, Zola, depuis le début du roman, nous dit sans cesse « Nana était nue », mais il ne raconte pas. Il nomme la nudité, mais ne la décrit pas. Et justement, entre nommer la nudité et la décrire, il y a tout un monde.
C'est un peu la thèse que vous défendez
voilà,
aujourd'hui.
C'est ça, tout à fait. Et donc, il prépare cette scène en nommant, mais en décrivant pas, jusqu'au moment, justement, au chapitre 7, il va décrire, et là, c'est vraiment une description qui est incroyable, le corps dénudé de Nana devant un miroir.
Ah, mais alors attendez, parce que vous nous avez dit tout à l'heure, la littérature, contrairement à la peinture, n'arrive pas à décrire le nu.
Voilà.
Or.
Ah, voilà. Or, justement, on est en pleine période où la question de la nudité explose aussi en peinture.
C'est-à-dire que c'est courbé, nu de courbé.
Il y a une forme d'exaspération des peintres face au nu conventionnel. Il y a vraiment une fatigue, un épuisement. Et cet épuisement, cette exaspération des peintres à l'égard du nu académique, ça va être deux provocations incroyables. D'une part, Courbet, l'origine du monde, avec tableau fameux, faisant l'hypothèse que si on retourne, on ne voit rien, eh bien justement, va montrer un fragment du corps et le fragment, évidemment, du sexe. Et puis, il y a Manet, avec le dénudé sur l'herbe, qui joue sur un effet de disproportion entre le nu et ce qui l'entoure. La jeune femme, le modèle nu, est entourée d'hommes habillés en noir, avec y compris un petit geste obscène d'un des deux hommes qui, dont le doigt, dont le majeur ou l'index, je ne sais plus, est dressé comme une manière phallique. Mais en tout cas, il y a cette opposition du nu et de l'habillé. Et puis surtout, le corps lui-même n'est pas fondu dans l'espace. C'est-à-dire que, alors que les corps masculins s'intègrent parfaitement, je dirais, matériellement dans le volume de l'espace, le corps de la jeune femme se détache en quelque sorte et crée un effet de disproportion qui l'inscrit comme hors de l'espace. On retrouve ce que je disais au départ sur le trouble du regard que crée la nudité. Donc, si vous voulez, Zola est en plein là-dedans. C'est un ami de Manet, il est complètement intégré par l'expérience picturale. Et donc, il profite en fait de la crise de la représentation de la nudité en peinture pour précisément en tirer en quelque sorte les conclusions en littérature. Et la scène qu'il va écrire est absolument extraordinaire. Je vais la lire tout de suite, si vous voulez bien. Un des plaisirs de Nana était de se déshabiller en face de son armoire à glace où elle se voyait en pied. Elle faisait tomber jusqu'à sa chemise, puis toute nue, elle s'oubliait. Elle se regardait longuement. C'était une passion de son corps, un ravissement du satin de sa peau et de la ligne souple de sa taille qui la tenait sérieuse, attentive, absorbée dans un amour d'elle-même. Souvent, le coiffeur la trouvait ainsi, sans qu'elle tournât la tête. Alors Muffa se fâchait. Elle restait surprise. Que lui prenait-il ? Ce n'était pas pour les autres, c'était pour elle. Ce soir-là, voulant se mieux voir, elle alluma les 6 bougies des appliques. Comme elle laissait glisser sa chemise, elle s'arrêta, préoccupée depuis un moment, ayant une question au bord des lèvres. « Tu n'as pas lu l'article du Figaro ? Le journal est sur la table. » « On prétend qu'il s'agit de moi, là-dedans, » reprit-elle, en affectant un air d'indifférence. « Hein, chérie, quelle est ton idée ?» Et lâchant la chemise, attendant que Muffa eût fini sa lecture, elle resta nue. Muffa lisait lentement. Je saute la lecture de l'article, je reprends. « Alors, il leva les yeux.
L'article est très peu élogieux envers
Nana. Oui, l'article est un article où elle est comparée à une mouche.
Josiane qui vient se poser sur ce qu'il y a de plus sale.
Voilà, la pourriture, c'est la pourriture. Mais c'est une pourriture aussi qui pourrit la société. C'est pas une pourriture qui se pourrit seulement elle-même. C'est une pourriture qui pourrit l'aristocratie, qui est une sorte de venin, de plante vénéneuse, elle aussi. Nana s'était absorbée dans son ravissement d'elle-même. Elle pliait le cou, regardant avec tension dans la glace un petit signe brun qu'elle avait au-dessus de sa hanche droite. Et elle le touchait du bout du doigt. Elle le faisait saillir en se renversant davantage, le trouvant sans doute drôle et joli à cette place. Puis, elle étudia d'autres parties de son corps, amusée, reprise de ses curiosités vicieuses d'enfant. Ça la surprenait toujours de se voir. Elle avait l'air étonnée et séduite d'une jeune fille qui découvre sa puberté. Lentement, elle ouvrit les bras pour développer son torse de Vénus grasse. Elle ploya sa taille, s'examinant de dos et de face, s'arrêtant au profil de sa gorge, aux rondeurs fuyantes de ses cuisses. Et elle finit par se plaire au singulier jeu de se balancer, à droite, à gauche, les genoux écartés, la taille roulant sur les reins, avec le frémissement continu d'une almée dansant la danse du ventre. Muffa la contemplait. Elle lui faisait peur. Le journal était tombé de ses mains. Dans cette minute de vision nette, il se méprisait. C'était cela. En 3 mois, elle avait corrompu sa vie. Il se sentait déjà gâté jusqu'au moelle par des ordures qu'il n'aurait pas soupçonnées. Tout allait pourrir en lui à cette heure. Il eut un instant conscience des accidents du mal. Il vit la désorganisation apportée par ce ferment. Lui empoisonné, sa famille détruite, au coin de société qui craquait, s'effondrait. Et ne pouvant détourner les yeux, il la regardait fixement. Il tâchait de s'emplir du dégoût de sa nudité. Nana ne bougea plus. Un bras derrière la nuque, une main prise dans l'autre, elle renversait la tête, les coudes écartés. Il voyait en raccourci ses yeux demi-clos, sa bouche entrouverte, son visage noyé d'un rire amoureux. Et, par derrière son chignon de cheveux jaunes dénoués, lui couvrait le dos d'un poil de lionne. Ployée et le flanc tendu, elle montrait les reins solides, la gorge dure d'une guerrière aux muscles forts sous le grain satiné de la peau. Une ligne fine, à peine ondée par l'épaule et la hanche, filait d'un de ses coudes à son pied. Muffa suivait ce profil si tendre, ses fuites de chair blonde se noyant dans des lueurs dorées, ces rondeurs où la flamme des bougies mettait des reflets de soie. Il songeait à son ancienne horreur de la femme, au monstre de l'écriture, lubrique, sentant le fauve. Nana était toute velue, un duvet de rousse, faisant de son corps un velours. Tandis que, dans sa croupe et ses cuisses de cavale, dans les renflements charnus creusés de plis profonds, qui donnait au sexe le voile troublant de leur ombre, il y avait la bête. C'était la bête d'or, inconsciente comme une force et dont l'odeur seule gâtait le monde. Voilà, donc voilà le passage qui est vraiment, alors qui est une vraie, qui est là, qui est vraiment réellement une description d'un corps dénudé. Mais on le voit, c'est un corps dénudé qui est aussi en opposition, comme chez Manet, avec l'homme, puisque l'homme lui reste habillé. Et qu'il y a donc cette même disproportion entre le regardant et le regardé, regardant qui regarde à peine d'ailleurs, et on va voir pourquoi, qui est comme dégoûté, comme en opposition par rapport à
Il est dégoûté aussi de lui-même, parce qu'il a choisi finalement d'aimer cette femme qui est une prostituée, et il se rend compte que peut-être il a été pris dans un piège.
Tout à fait, et on retrouve aussi le dispositif freudien des deux libidos, mais qui sont cette fois-ci complètement désorganisés. C'est-à-dire que, alors que chez Dan Hugo, ça marche très bien, il y a celui qui regarde, qui est amoureux de l'objet, qui surinvestit l'objet de beauté, et puis il y a la femme qui, elle, casse ses miroirs, qui se regarde très bien, tout va très bien. C'est une sorte d'harmonie des deux libidos. Mais ici, chez Zola, les deux libidos sont en excès l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que, au fond, Nana n'investit son énergie sexuelle que dans sa seule image.
Et en quoi vous retrouvez ce qu'on sait par ailleurs de Zola, du naturalisme, de son observation de la société, dans la manière dont là il s'empare d'un autre sujet, d'un autre angle en fait, qui est la description vraiment de la nudité?
Pas seulement, puisqu'il y a, justement la société qui est aussi présente par Muffat, le comte Muffat, qui est son producteur, qui l'entretient, et qui précisément amène dans cette pièce avec lui toute la société, tous ses préjugés, toute sa corruption, tout son fonctionnement. Et donc l'analyse sociologique que fait Zola, et le naturalisme aussi de Zola, est intégralement présent dans cette scène, notamment par l'idée justement aussi de corruption, je dirais, du social par le corps ou par l'excès du corps. Ce qui est troublant, donc, c'est que il y a donc cet excès de libido du moi chez Nana, et puis justement cette absence de libido de l'objet chez Muffat, qui ne surestime pas l'objet mais le sous-estime précisément. Et donc le choc des deux libidos et la naissance de ce qu'on pourrait appeler l'obscène, qui est le contraire du nu, enfin qui en tout cas qui est interdit de voir le nu parce que l'obscène c'est ce qui déborde l'image. Chez Hugo, l'image est parfaite. Hein, il avait fait un petit blason de Josiane. Là, la description est démente. Le corps est absolument irreprésentable. Il est démantibulé, il est excessif, il est tordu, il n'est pas harmonieux. Et il y a donc cette espèce d'excès d'obscénité. Et puis surtout, ce qui va apparaître comme l'élément qui est la vraie transgression de la nudité, c'est la pilosité.
C'est-à-dire que elle est velue.
Elle est velue. Nana est velue. Elle est poilue, velue. Et c'est vraiment là le sexe qui, en quelque sorte, recouvre la nudité, qui est en principe une nudité glabre, nette, qu'une sorte d'image, une couleur, une transparence, une blancheur. Là, non, c'est pas tout ça. C'est au contraire.
C'est l'animalité, c'est ça?
L'animalité, mais surtout le sexe. Le sexe qui est, parce que la pilosité, c'est en quelque sorte, symboliquement, c'est le sexe féminin qui prend toute la place, en quelque sorte, qui contamine le corps, au lieu que la pilosité en reste au niveau du sexe, eh bien, la pilosité a envahi le corps et a fait le corps de Nana un sexe à lui tout seul, en quelque sorte.
Avant de parler du dernier extrait que vous avez choisi, Éric Marty, j'aimerais quand même vous demander si il y a un style pour écrire la nudité qu'on peut retrouver d'un écrivain à l'autre, une façon de décrire, alors ce mot d'écrire, on a vu qu'il était compliqué, mais enfin une façon de parler de la nudité qu'on pourrait retrouver d'un écrivain à un autre.
Ce que je pourrais dire, je pense pas qu'il y ait une langue identique. La langue change vraiment d'auteur à auteur de manière très forte. Ce qu'il y a de commun dans l'écriture du nu, c'est évidemment le regard. C'est évidemment le fait qu'il y a constamment que le regard est omniprésent et que c'est pas le regard habituel, que c'est un regard qui est un regard troublé, un regard embué, un regard qui n'est pas, je dirais, un regard naturel, qui change, qui fait un saut, qui saute en quelque sorte dans un champ de perception tout autre. Et c'est ça qui serait l'élément commun, en quelque sorte.
Et on ne pourrait pas faire de la littérature sans cela.
Il me semble en tout cas, c'est comme ça que je la vois.
Dernier texte, Georges Bataille. On pense immédiatement à Georges Bataille quand on évoque cette question de la nudité. A-t-on raison? Est-ce qu'on est plutôt avec Georges Bataille finalement du côté du sexe pur avant d'être du côté, comme dans les textes précédents, d'une forme de sensualité ou d'érotisme? Est-ce que la nudité et Georges Bataille, ça doit forcément être deux thèmes qui se confrontent?
Alors c'est une nudité excessive chez Bataille, c'est-à-dire que c'est pas du tout la nudité naturaliste ou baroque de Zola ou baroque de chez Hugo. D'Hugo, c'est une nudité qui est une nudité celle de l'impossible, celle d'une nudité mystique, une nudité qui est une expérience très, très, très forte. Et je dirais que Madame Edwarda, qui est donc le personnage qui va être cité ici, ce n'est pas un personnage en réalité comme les Nana, comme les Josiane. C'est une forme de médiation pour le narrateur vers une expérience d'un au-delà. Mais elle-même n'existe pas comme personnage. Et c'est cela qu'il faut bien, voir. C'est qu'elle est avant tout quelque chose qui est comme une expérience, mais pas un personnage. Et effectivement, le corps à la limite disparaît au profit de quelque chose qui est le sexe. Mais
donc finalement, Bataille ne s'intéresse qu'à son personnage et pas tellement à ce qui est décrit, c'est-à-dire le sexe de Madame Edwarda, pas que le sexe d'ailleurs, mais le corps de Madame Edwarda.
Voilà, pas le corps, mais je dirais que c'est le sexe de Madame Edwarda qui l'intéresse, puisque Madame Edwarda est une sorte d'allégorie, une sorte de figure, beaucoup plus qu'une personne, qu'il n'y a pas de psychologie, elle n'a pas de réalité, elle n'a pas de biographie, elle n'est pas ni Nana, ni Josiane. Elle est vraiment une sorte de figure très, très impressionnante du nu.
Au milieu d'un essaim de filles, Madame Edwarda, nue, tirait la langue. Elle était à mon goût ravissante, je la choisis. Elle s'assit près de moi. À peine ai-je pris le temps de répondre au garçon, je saisis Edwarda qui s'abandonna. Nos deux bouches se mêlèrent en un baiser malade. La salle était bondée d'hommes et de femmes, et tel fut le désert où le jeu se prolongea. De mon hébétude, une voix trop humaine me tira. La voix de Madame Edwarda, comme son corps gracile était obscène. « Tu veux voir mes guenilles ?» disait-elle. Les deux mains agrippées à la table, je me tournais vers elle. Assise, elle maintenait haute une jambe écartée. Pour mieux ouvrir la fente, elle achevait de tirer la peau des deux mains. Ainsi, les guenilles d'Edwarda me regardaient, velues et roses, pleines de vie comme une pieuvre répugnante. Je balbutiais doucement. « Pourquoi fais-tu cela ?» « Tu vois, dit-elle, je suis Dieu. Je suis fou. Mais non, tu dois regarder. Regarde. » Sa voix rauque s'adoucit. Elle se fit presque enfantine pour me dire avec lassitude, avec le sourire infini de l'abandon, comme j'ai joui.
Alors c'est un passage très étonnant, mélange de burlesque, de grotesque, de pathétique, de mystique. Le corps a disparu, le sexe a pris toute la place, la femme donc fait voir, montre l'immontrable et elle dit « je suis Dieu ». Et au fond, comme si le point commun entre le sexe féminin et Dieu, c'était qu'il ne se montre pas, qu'il ne va pas être montré. Et c'est peut-être ça la justification du « je suis Dieu ». De Madame Edwarda, c'est au fond cela, montrer l'immontrable. Mais ce qui me frappe le plus dans ce passage-là, c'est le moment où elle dit « tu dois regarder, regarde ». C'est ça qui est fort, je trouve, dans ce passage-là, comme s'il y avait, ici, de la part de la femme, un impératif catégorique du voir. Elle demande à l'homme de la voir.
C'est-à-dire de considérer, d'accepter, de considérer.
Voilà, de considérer, d'ouvrir les yeux dans le texte de Hugo qu'on a lu tout à l'heure, il y a un passage que j'ai pas eu le temps de lire, mais où Hugo définit la nudité comme ce qu'il appelle une sommation mystérieuse. La nudité, c'est ce qui somme l'homme de la regarder, en quelque sorte. La nudité est une forme d'impératif pour l'homme à ce qu'il regarde, c'est l'unité. Et cette sommation de Hugo, cet impératif de Bataille, justement, c'est ce qui interrompt la perception naturelle, on y revient toujours, que j'ai donné comme élément de point de départ de mon propos, où l'impératif regarde inscrit quelque chose de profondément radical dans l'expérience même du regard. Et on retrouve également ici la libido du moi, parce que dès lors que l'homme regarde, alors la femme peut dire « comme j'ai joui ». Donc il y a ici comme une forme d'accomplissement au fond de cette double libido du regard, du regardant, du regardé, de la nudité et de l'homme habillé, de cette espèce de complémentarité des deux espaces.
Merci beaucoup Éric Marty et je vous propose de retrouver à présent comme chaque jour Jacques Bonafé.
Bonjour, Yves Bonnefoy, quatrième jour, les planches courbes. On a essayé de glisser quelques mots sur le rêve, construction si importante dans la poésie en prose de Yves Bonnefoy, Rue Traversière et autres récits en rêve. Confier la tâche au langage, à la poésie, c'est pour Bonnefoy poser en principe que le monde second a son fondement dans l'acte de parole qui nomme les choses et qui en appelle à l'être dans la communication vivante avec autrui. Extrait de la préface de Jean Starobinski. Mais le plus cher, mais non, le moins cruel de tous nos souvenirs, la pluie d'été, soudaine, brève. Nous allions, et c'était dans un autre monde, nos bouches s'enivraient de l'odeur de l'herbe. Terre, l'étoffe de la pluie se plaquait contre toi, c'était comme le sein qu'eût rêvé un peintre. Blanche courbe, je redresse une branche qui s'est rompue, les feuilles sont lourdes d'eau et d'ombre, comme ce ciel d'encore avant le jour. Ô terre, signe désaccordé, chemins épars, mais beauté, absolue beauté, beauté de fleuve, que ce monde demeure malgré la mort, serré contre la branche, l'olive grise, que ce monde demeure, que l'absence, le mot ne soit qu'un à jamais dans la chose simple, un à l'autre ce qu'est la couleur à l'ombre, lors du fruit mûr, alors de la feuille sèche. Et ne se dissociant qu'avec la mort, comme brillance et eau quitte la main où fond la neige. Oh, que tant d'évidence ne cesse pas, comme s'éteint le ciel dans la flaque sèche, que ce monde demeure tel que ce soir, que d'autres que nous prennent aux fruits sans fin, que ce monde demeure qu'entre à jamais la poussière brillante du soir d'été dans la salle vide, et ruisselle à jamais sur le chemin l'eau d'une heure de pluie dans la lumière. Que ce monde demeure, que les mots ne soient pas un jour ces ossements gris corombectés, criant, se disputant, se dispersant les oiseaux notre nuit dans la lumière. Que ce monde demeure, comme cesse le temps quand on lave la plaie de l'enfant qui pleure. Et lorsque l'on revient dans la chambre sombre, on voit qu'il dort en paix, nuit, mais lumière. Bois, disait celle qui s'était penchée quand il pleurait confiant après sa chute. Bois, et couvre ta main ma robe rouge, que consente ta bouche à sa bonne fièvre. De ton mal presque plus rien ne te brûle. Bois de cette eau qui est l'esprit qui rêve. Ô poésie, je sais qu'on te méprise et te dénie, qu'on t'estime un théâtre, voire un mensonge, qu'on t'accable des fautes du langage, qu'on dit mauvaise l'eau que tu apportes à ceux qui tout de même désirent boire et déçus se détournent vers la mort.
C'était donc un numéro spécial de la Compagnie des auteurs. Un grand merci à Éric Marty qui a sélectionné et commenté pour nous des textes sur le thème de la nudité. Éric Marty, je rappelle que vos nombreux livres sont disponibles en librairie. Les principaux sont signalés sur notre site internet, mais on peut tout de même citer en particulier votre dernier roman, La Fille, paru en 2015 aux éditions du Seuil. Et puis, sur un tout autre sujet, en l'occurrence le film Shoah de Claude Lanzmann, vous avez fait paraître récemment un essai aux éditions Manutius. C'était en avril. Cette émission était réalisée par Laurence Millet. À la console, il y avait Olivier Dupré. À la préparation, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinot, Corinne Amar et Eva Le Sceau. N'oubliez pas le podcast, la réécoute en ligne, Twitter et aussi Facebook. Très bon après-midi à toutes et à tous à l'écoute de France Culture.